Bien, bah écoutez, je vais vous proposer qu'on commence cette rencontre, hein, parce qu'il s'agit vraiment d'une rencontre avec Jacques Hoogmann. Alors, je lui disais en aparté, mais je crois que je voulais le redire en public, il va pas bien supporter tout le plaisir que j'ai à l'accueillir et tout le plaisir qu'il m'a fait en me demandant de venir l'accompagner. Le soutien, il n'en a pas besoin, mais aussi tout l'honneur qu'il me fait en me demandant d'être à ses côtés aujourd'hui, bien sûr, pour l'écouter d'abord et pour éventuellement avec vous l'interroger, parce que je pense qu'on va profiter, ne ratez pas une seconde pour en tirer la substantifique moelle et pouvoir profiter de cette présence pour l'interroger. Alors, présenter Jacques Hoogmann, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, je crois. Tout le monde le connaît, donc c'est toujours bien évidemment difficile. Tout le monde sait qu'il est professeur maintenant honoraire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Je crois que ce qui est important, de cas qui m'a marqué, moi qui étais de la génération interne, c'est tout son côté pionnier dans tout ce qui a été le traitement institutionnel, notamment dans le domaine de l'autisme, avec l'expérience qu'il a menée à Lyon, la création de l'ITAC, hors mur, on va dire hors institution à l'époque, d'accueil, de prise en charge, le rôle institutionnel et le côté très, très pionnier dans la prise en charge des enfants et puis, bien évidemment, tout particulièrement des enfants autistes dont il va nous parler ce soir. Alors, Jacques Hoogmann est psychanalyste. Alors, je me disais, en disant Jacques Hoogmann est psychanalyste, il y a de nombreux psychanalystes dans cette salle, je me disais, où on réduit la psychanalyse, où on la rend mégalomane. Tellement réduire Jacques Hoogmann à psychanalyste, c'est oublier qu'il est aussi philosophe, qu'il est aussi très orienté dans la littérature. C'est aussi oublier quelque chose qui me semble important de dire de Jacques Hoogmann, c'est justement cet éclectisme, sa connaissance. On disait au XVIIIe siècle, c'est un érudit. Ça c'est au 17e, 18e, maintenant érudit, c'est un petit côté un peu négatif. J'ai envie de dire, moi, de façon au 21e siècle, c'est un curieux. C'est un homme pour qui il n'y a pas de savoir, qui doivent être dédaignés. C'est un homme pour qui je crois, c'est ouvert à tous les savoirs. Et je crois que dans le domaine de l'autisme, ce qu'il a apporté, mais il a bien des choses à nous en dire, c'est justement tout ce trajet, toute cette trajectoire pour comprendre pourquoi l'autisme a été aussi autant parfois l'objet de polémiques, de difficultés. Pourquoi il a fait l'objet comme ça de conflits qui ont été parfois extrêmement violents? Pourquoi il y a encore des confrontations? Et je crois qu'on ne peut pas comprendre l'autisme si on n'a pas, en soi, si on n'est pas porteur un peu de cette histoire, de ces concepts. Et j'ai envie de dire, à partir d'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre l'autisme si on n'a pas lu le livre de Jacques Hoogmann sur l'histoire de l'autisme. Parce que je crois qu'il n'y avait pas mieux que lui, il n'y avait pas meilleur que lui pour pouvoir porter comme ça l'ensemble des éléments qui ont conduit aujourd'hui aux questions que soulève encore l'autisme, mais pour pouvoir nous faire cette synthèse de ça. Donc il est psychanalyste, bien sûr, et je crois un des grands psychanalystes de l'enfant et de l'adolescent, mais il est bien au-delà de ça, je crois, quelqu'un qui a su faire aussi entre la psychanalyse, entre la littérature, avec la philosophie, avec l'anthropologie, et puis on en redira un tout petit mot avec les neurosciences cognitives, des ponts, et que cette volonté d'articuler, cette volonté de lien, cette volonté de collaboration, je crois, l'aura animé toute sa vie. Il est un psychanalyste au bon sens du terme, je ne sais pas s'il y a un mauvais sens du terme, mais en tout cas, je crois qu'il témoigne, et je voudrais le dire ici, que les débats théoriques ne deviennent polémiques que quand ils sont animés à des fins idéologiques. Alors, pardonnez-moi ces phrases sentencieuses. C'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas de mauvaise théorie. Bien évidemment qu'on a besoin de courants, on a besoin de représentations, et c'est avec ces représentations qu'on travaille. Et je crois que ce qui fait parfois confrontation est nécessaire. Ça devient conflit, ça devient polémique, qui est donc stérile à partir du moment où c'est, encore une fois, outil de pouvoir, outil de domination, outil d'emprise sur l'autre. Alors, vous n'êtes pas venu m'écouter, je vous rassure. Donc, j'ai bien évidemment savoir raccourcir mes propos. Je terminerai juste peut-être par ces références biographiques. Jacques Hoogmann a écrit de nombreux ouvrages. Il est hors de question de les citer tous, bien évidemment, sur des sujets extrêmement variés. Je crois qu'il a contribué indubitablement à des apports théoriques. Je veux dire qu'il n'a pas fait que d'écrire des choses. Il a apporté de nombreuses contributions théoriques, notamment au travail de soins. Moi, il y a deux ouvrages, Jacques, que je voudrais citer comme ça, parce que ils m'ont marqué, moi, dans mon parcours de psychiatre d'enfants et adolescents. Le premier, c'est La Consolation. C'est pas à cause de Charles VI, mais c'est surtout parce que je crois que Jacques Hockmann nous y a montré l'importance du soin, la complexité de ce qu'est le soin en psychiatrie, la complexité aussi de ce que sont les mécanismes relationnels qui sont engagés dans les processus de soins, qui ne vont pas s'exclure d'autres approches d'ailleurs, mais qui nous montrent à quel point la prise en compte de l'autre est la pierre angulaire du soin, quelle que soit la pathologie en psychiatrie, est au centre de la rencontre avec le patient. Le deuxième ouvrage, qui je crois est aussi un ouvrage que j'ai envie de citer, encore une fois parmi de nombreux, qui est Jacques Hockmann, c'est une confidence que je vais vous faire, a fait une expérience de spiritisme qu'il a partagé avec probablement un des plus grands neuroscientifiques du point de vue cognitif, qui est Marc Jeanneret. Il est allé chercher l'esprit. Il a même appelé dans un livre « Esprit, où es-tu ?» Vous voyez, alors là, il n'a pas fait tourner de table, mais il y témoigne dans cet ouvrage de cette volonté de dialogue. Et pour ceux que ça intéresse, je vous invite vivement à retourner à cet ouvrage pour montrer cette volonté de dialogue entre Marc Jeanneret, qui est donc professeur et un chercheur en neurosciences cognitives, et Jacques Hockmann, qui était peut-être le psychanalyste de série, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, en tous les cas, et cette recherche permanente de quelque chose qui, bien évidemment, reste une représentation, qui est notre esprit, qui est notre pensée, qui est notre mental, qui est notre psychisme, mais cette volonté, encore une fois, dont il témoigne tout au long de son parcours, d'ouverture, de dialogue, et de jamais s'arrêter en se disant « ça y est, aujourd'hui je sais ». Alors, j'espère qu'on va, en lui laissant maintenant la parole, profiter, boire ses paroles. On m'a dit que j'étais son modérateur. Je vous invite à consommer Jacques Hockmann sans modération.
Bien, bah après tout ça, ça va être très, très difficile de continuer, de rester digne de tous ces éloges. Je voudrais dire, moi, que je suis extrêmement sensible à l'amitié que témoigne Manuel Bouvard en acceptant de venir faire cette modération à un moment de rentrée scolaire où j'imagine, pour avoir été professeur avant d'être retraité, qu'il a d'autres occupations extrêmement prenantes. Donc je suis vraiment très sensible, et à tout ce qu'il vient de dire, bien sûr. Donc je vais essayer d'être un tout petit peu digne, et puis à son amitié ici. Alors, peut-être que je pourrais commencer par essayer de vous dire pourquoi j'ai écrit ce livre qui se trouve là sur la table, et puis ensuite essayer de vous décrire un tout petit peu son contenu. Et puis surtout, j'espère répondre à vos questions et peut-être avoir un débat avec la salle. Alors, pourquoi j'ai écrit ce livre ? Mais il se trouve qu'il y a cette année 40 ans que j'ai rencontré le premier enfant autiste dont je me sois occupé. Il avait à l'époque 6 ans. À l'époque, on dépistait l'autisme beaucoup plus tardivement qu'aujourd'hui. Il n'avait encore jamais eu de rencontre ni avec une éducation spécialisée, ni avec des soins. Il était dans sa famille. Et il est arrivé à 6 ans. Ses parents l'ont amené à l'école primaire pour l'inscrire, comme c'était l'obligation. Et au bout d'une matinée, la maîtresse leur a dit « ou vous faites quelque chose, ou c'est moi qu'on hospitalise à l'hôpital psychiatrique le plus proche avant la fin de l'année ». En effet, c'était un enfant qui hurlait sans arrêt, qui s'automutilait, qui avait un petit peu de langage, surtout écolalique, qui avait très peu de langage avisé de communication, et qui tournait en rond continuellement, un peu comme une toupie, sur lui-même, ses parents étant évidemment, on l'imagine aisément, dans un état d'épuisement considérable, même si c'était des parents particulièrement tolérants et particulièrement attentifs à cet enfant. Alors à l'époque, il y a 40 ans, l'autisme n'était pas, comme il est devenu aujourd'hui, un phénomène de société, un peu à la mode par certains côtés. Il n'y avait pas grand-chose. J'ai cherché un peu des instituts. Moi, je travaillais dans ce qu'on appelle un dispensaire, ce qui s'appelle aujourd'hui un centre médico-psychologique. J'ai cherché quelques solutions. J'en ai pas trouvé. Et on a donc essayé, devant cette famille qui était en détresse, de bricoler avec une jeune infirmière qui, par la suite, s'est spécialisée, devenue psychologue, psychothérapeute, mais qui débutait tout à fait, et une jeune orthophoniste, puis une assistante sociale aussi, de mettre en place une micro-équipe autour de cet enfant pour essayer d'aider cette famille. Alors le système très bricolé qu'on a mis au point à ce moment-là était relativement simple. L'infirmière, tous les jours, essayait de rencontrer l'enfant, le plus souvent d'ailleurs à l'époque à domicile. Elle essayait aussi de sortir un petit peu avec lui, de l'accompagner dans la ville et surtout de l'apprivoiser à travers ses différentes occupations qu'elle pouvait avoir avec lui, à travers des petits jeux aussi, d'élaborer, d'échafauder une communication avec lui, tout en soutenant sa mère qui se trouvait, vous l'imaginez, dans un état d'épuisement assez grand. L'orthophoniste rencontrait l'enfant 3 fois par semaine, essayait petit à petit de mettre en place avec lui un langage avisé de communication, et pas seulement l'écolalie dont il, qui était chez lui pratiquement le seul langage. Et puis, une fois par semaine, l'assistante sociale et moi, on rencontrait les parents et on essayait de se raconter mutuellement ce qui s'était un peu passé pendant la semaine, ce que nous, on avait observé, ce que les parents avaient observé, et de mettre ça en histoire et d'essayer de donner un tout petit peu de sens, de comprendre un peu certains éléments du comportement de cet enfant. Comme assez vite, il semblait effectivement s'apprivoiser, que son langage s'étendait un tout petit peu, que son comportement devenait moins spectaculaire, moins douloureux. On s'est dit que cet enfant, après tout, avait droit, comme n'importe quel enfant, d'aller à l'école. Et on s'est mis en quête d'une classe qui l'accepterait. Alors, à l'époque, il n'y avait pas ce qui s'appelle les CLIS. Aujourd'hui, ça s'appelait les classes de perfectionnement. Elles étaient polyvalentes. Et on a trouvé, pareillement, une jeune institutrice de classe de perfectionnement qui déjà avait une certaine expérience. Elle ne débutait pas tout à fait dans le métier, mais qui a accepté de prendre ce petit garçon chez elle, dans sa classe, à temps partiel au début accompagné par l'infirmière. C'était un peu, si vous voulez, ce qu'on appelle aujourd'hui les AVS. Enfin, on essayait de bricoler quelque chose. Et petit à petit, cet enfant a pu comme ça être scolarisé, d'abord à temps très partiel et progressivement de plus en plus, tout en poursuivant avec nous cette espèce de registre de soins qu'on avait essayé de mettre en place. Bon, comme cette affaire n'a pas trop mal évolué, que cet enfant, bon, il a aujourd'hui 49 ans, bientôt, et je garde un peu des contacts avec lui, avec sa famille, il a évolué pas trop mal, il est resté autiste, il a gardé un comportement assez particulier, mais il est assez bien inséré dans la société, il est assez autonome, il a la chance d'avoir toujours ses parents, et derrière lui, qui sont des gens assez remarquables, et qui l'ont beaucoup soutenu dans tout son trajet. Mais comme cette histoire marchait pas trop mal, si vous voulez, petit à petit, on a eu l'idée de l'étendre à d'autres enfants. L'équipe, évidemment, s'est enrichie progressivement. Et on a mis en place comme ça, enfin, Manuel Bouvard y faisait allusion, à l'intérieur d'un secteur polyvalent de psychiatrie infanto-juvénile, une unité particulière qui s'occupe toujours au long cours d'enfants autistes ou présentant des troubles voisins de l'autisme, enfin tout ce qui rentre aujourd'hui dans le cadre assez vaste des troubles envahissants du développement. Alors, depuis ça, évidemment, le dispositif s'est compliqué, est devenu beaucoup plus important qu'il n'était à l'époque. Il traite actuellement une cinquantaine d'enfants et d'adolescents qui ont tous un programme assez voisin, c'est-à-dire que tous bénéficient d'un interlocuteur privilégié, un peu comme Alain le premier avec l'infirmière, d'un interlocuteur privilégié qui peut être soit un psychologue ou une psychologue, soit une éducatrice spécialisée, soit une infirmière, selon les cas, enfin, mais qui rencontre ce sujet 2, 3 ou 4 fois, même dans certains cas par semaine, dans ce que j'appelle un travail d'apprivoisement et de construction progressive d'une relation. Tous bénéficient aussi, surtout quand ils sont petits, de rééducation orthophonique, dans certains cas de rééducation psychomotrice aussi. Et à côté de ces prises en charge individuelles, tous bénéficient d'un certain nombre de groupes qui sont soit des groupes d'échange, de parole, on essaye de les aider à apprendre, à communiquer entre eux et à comprendre leurs émotions et à comprendre aussi les émotions des autres. On peut dire que ces groupes ont beaucoup bénéficié, d'ailleurs, Manuel Bouvard y faisait allusion tout à l'heure, de l'apport des sciences cognitives et de tout ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie de l'esprit, au niveau de leur théorisation au moins. Donc des groupes qui sont des groupes d'échange, et puis d'autres groupes qui ont une visée plus éducative et qui visent à les aider à s'intégrer dans la cité, à découvrir le quartier, à utiliser les moyens de transport en commun, à éventuellement aussi des groupes qui utilisent les équipements sportifs ou culturels de la ville. Ça, c'est donc une partie qui se fait dans le centre spécialisé de soins, et tous aussi bénéficient d'une intégration scolaire, soit dans un très petit nombre de cas dans des classes ordinaires, mais ça c'est vraiment très, ils sont très peu nombreux, soit dans des CLIS généralistes en quelque sorte, soit dans un réseau de classes spécialisées dont on a obtenu la création par l'Éducation nationale. Elles sont actuellement au nombre de 7, il y a 2 classes maternelles. Elles sont toutes à très petits effectifs, 6-7 enfants au maximum, 2 classes maternelles, 2 classes primaires, 2 classes UPI, enfin 2 classes de collège, en somme, et depuis peu, enfin depuis 4 ou 5 ans, une classe pour les plus grands dans un lycée professionnel qui fonctionne beaucoup en classe d'intégration avec ouverture sur le monde du travail, enfin une pré-ouverture sur le monde du travail. Alors, tout ceci sous-entend que progressivement, on s'est mis à faire des prises en charge de très très longue durée, évidemment dans des groupes différents. Au fur et à mesure que les enfants grandissent, ils ne restent pas dans le même groupe, mais allant donc depuis le très jeune âge jusqu'à l'entrée dans l'âge adulte, 21, 22, même certains sont encore là, 23 ans. Depuis quelques années aussi, où s'est branché sur cette équipe dite de proximité dans le langage moderne, un centre d'évaluation diagnostique de l'autisme qui évidemment touche une clientèle beaucoup plus vaste et dont certains restent pris en charge dans notre système, mais d'autres sont pris en charge dans d'autres équipes, dans d'autres lieux, au fur et à mesure où le diagnostic, le dépistage progresse et où l'évaluation progresse. Voilà en gros, si vous voulez, mon expérience professionnelle. Et tout ce travail s'est toujours fait en lien très étroit, très respectueux, de collaboration avec les parents, voire même dans un certain nombre de cas, je pourrais dire en lien véritablement d'amitié avec certaines familles. Jusqu'au jour, je voudrais rappeler, quand on a commencé, il n'y avait pas grand-chose. Au fur et à mesure, se développaient d'autres modalités de prise en charge. On a essayé de s'informer, de s'enrichir aussi en écoutant ces autres modalités de prise en charge. Lorsque Manuel Bouvard, il faisait tout à l'heure allusion, on pourrait dire dans les années 80, vers 85-86, a éclaté en France quelque chose qui déjà se préparait depuis un certain nombre d'années aux États-Unis et qu'on pourrait appeler, que j'ai proposé d'appeler en tout cas, la bataille de l'autisme. C'est-à-dire une polémique qui connaît des apaisements, qui connaît des périodes, au contraire, où elle s'exacerbe à nouveau. On est actuellement plutôt dans une période d'exacerbation, avec des points de vue idéologiques, comme tu le disais tout à l'heure, extrêmement opposés, extrêmement violents, et un manque de sérénité qu'on trouve rarement quand même dans les débats scientifiques, qui est donc assez particulier et qui m'a amené à penser que, dans une certaine mesure, prenez ça évidemment comme une métaphore et pas au sens propre du mot, l'autisme était contagieux. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans l'enfant autiste qui suscite autour de lui des positions exclusives, des positions où on se branche sur une seule idée, où on pense qu'on détient la vérité, qu'on est seul à détenir cette vérité, c'est-à-dire des positions qu'on pourrait quasiment qualifier d'une sorte d'autisme à deux, en quelque sorte, et donc une véritable contagion. Alors je me suis dit, pourquoi que ça ? Est-ce que ça peut se comprendre ? Et quelles sont les racines de ce phénomène ? C'est ce qui m'a un peu amené à m'intéresser à l'histoire. Comme il se trouvait que j'étais à la retraite et que j'avais un peu plus de temps, je suis donc parti, il y a maintenant 4 ou 5 ans, dans l'histoire pour essayer de retracer un peu les positions qui avaient été celles des des spécialistes pendant longtemps. Aujourd'hui, il y a un nouveau partenaire qui est apparu. Ce sont les familles qui, à l'époque des débuts, étaient tout à fait silencieuses. On ne sait pas ce qu'elles pensaient. En tout cas, elles n'avaient pas d'expression comme elles en ont acquis une, fort heureusement, d'ailleurs, aujourd'hui. Donc j'ai essayé de comprendre d'où ça venait un peu ces conflits, ces batailles. Et quand on regarde l'histoire, bon, vous me direz tout de suite, mais l'autisme, c'est pas très ancien, puisque Caner a décrit l'autisme en 1943. Mais avant Caner, il y avait bien évidemment des enfants qui correspondaient à ceux que nous appelons aujourd'hui autistes. Et alors, quelles étaient les positions vis-à-vis d'eux? Comment est-ce qu'on les recevait? Comment est-ce qu'on théorisait le travail qu'on faisait avec eux? Et quand on regarde cette histoire au long cours, qui a en gros deux siècles, eh bien, on s'aperçoit que les grands problèmes qui sont actuellement en débat ont toujours été en débat dès le début. C'est-à-dire que dès le début, on se pose la première question, est-ce que c'est quelque chose qui est inné, on dirait aujourd'hui génétique, ou est-ce que c'est quelque chose qui est acquis, environnemental, lié à des facteurs d'environnement, lié à des relations précoces, défectueuses entre l'enfant et son environnement? C'est la première question, le premier germe de conflits, de débats, de polémiques. Deuxième question, est-ce que c'est curable? Est-ce qu'on peut guérir l'autisme, enfin ce qui s'est appelé l'autisme par la suite, ou est-ce que c'est totalement incurable? En d'autres termes, est-ce que c'est une maladie ou est-ce que c'est un handicap? Et ça, c'est un débat qui existe aussi pratiquement dès l'origine. Et troisième point de conflit, et qui aujourd'hui redevient très vif, c'est qui doit s'en occuper? Est-ce que c'est un problème médical ou est-ce que c'est un problème strictement éducatif? Eh bien, ces trois épines irritatives, inné, acquis, curabilité, incurabilité, médecin, éducateur, dès le début de l'histoire, on les trouve présentes et elles se répètent tout au long de l'histoire sous des formes un peu diverses. Alors cette histoire, je ne vais peut-être pas vous la raconter en détail, ça prendrait très longtemps, mon livre a quelques 500 pages, je crois, mais je vais essayer quand même de la résumer dans ces grandes lignes. L'histoire, on peut la faire commencer très loin. Encore une fois, de tout temps, il y a probablement eu des enfants qui correspondaient à ce que nous appelons aujourd'hui l'autisme infantile. Mais elle devient vraiment théorisée, si on peut dire, à partir du début du 19e siècle, et on peut considérer, enfin en tout cas c'est comme ça que j'ai considéré dans le livre, que le premier enfant autiste dont on se soit occupé professionnellement, vous le connaissez probablement par le magnifique film de François Truffaut, c'est Victor le sauvage de l'Aveyron, et j'ai donc fait commencer l'histoire à Victor le sauvage de l'Aveyron. Parce que Victor, vous connaissez très brièvement, je rappelle très brièvement l'histoire, dans les bois de la Cône, dans l'Aveyron, en 1800, on découvre un enfant qui doit avoir une dizaine d'années, qui vit dans les bois depuis plusieurs années, on l'a vu vaguement passer déjà depuis 3-4 ans, il marche à quatre pattes, il se nourrit de baies sauvages, il est très très difficile à approcher. Bon, je passe sur les détails, au bout après plusieurs tentatives, on finit par le capturer, et comme ça intéresse énormément les gens, qu'est-ce que c'est que ce phénomène, il est transféré à Paris sur l'ordre de Lucien Bonaparte, qui à ce moment est sous le consulat, hein, Lucien Bonaparte est ministre de l'Intérieur, et demande qu'on le transfère à Paris, on le loge, on ne sait pas trop où le mettre, on le loge à l'institution des sourds-muets, comme il ne parle pas, ça se rapproche un peu des sourds-muets, et on le fait voir au grand psychiatre de l'époque, à celui qui est un peu le fondateur de la psychiatrie, un des fondateurs de la psychiatrie, et qui s'appelle Philippe Pinel. Alors Philippe Pinel examine cet enfant et dit « c'est un idiot de naissance ». C'est le terme. À l'époque, ça s'appelle les idiots. Le mot est devenu une insulte, mais à l'époque, c'était un mot médical qui décrivait ce qu'on a appelé ensuite l'arriération profonde, enfin les enfants extrêmement déficitaires sur le plan intellectuel. Je fais une petite parenthèse, là, il est frappant, notable, enfin intéressant de noter que le mot « idiot » vient du grec « idiotesse » et que « idiotesse » en grec, Sémantiquement, ça veut dire un peu la même chose qu'autiste. Autiste, ça vient de autos, qui veut dire soi-même, et idiotesse, ça vient de idios, qui veut dire aussi le même, et ça désignait dans la Grèce antique le privé par opposition au public. Si vous voulez, quand je crois que c'est Thucydide parle un moment d'une médecine oppose les profanes aux médecins pour le soin. Il y a une épidémie de peste, il y a des médecins qui s'en occupent, il y a des profanes aussi, des privés en somme. Qui s'occupe des pestiférés, et ces privés, Thucydide les qualifie d'idiotesse, d'idiots en quelque sorte. Donc le mot au début, ça signifie le privé par opposition au public, celui qui reste en lui-même, qui reste enfermé dans sa maison, par opposition à celui qui va dehors dans le public. Et puis, comme dans la Grèce, dans la démocratie athénienne, tous les gens qui n'étaient pas esclaves avaient tous une position politique, publique. Celui qui vraiment restait chez lui et ne participait pas à la gestion de la cité, on pensait qu'il était en quelque sorte demeuré, dans sa demeure. Il était demeuré. Donc, ça a fini par désigner le déficient mental. Et quand Pinel emploie ce terme d'idiot, donc ça signifie médicalement l'idiotisme, c'est la déficience mentale profonde. Et Pinel dit donc, c'est inné. C'est un déficient mental profond, probablement abandonné par ses parents, qui n'en voulaient plus. Et voilà ce que c'est que Victor. Et il est incurable, ajoute Pinel. Alors, en face de Pinel surgit un jeune médecin débutant, probablement plein d'ambition, et qui s'appelle Jean-Gaspard Itard. Et Itard, à l'époque, il est médecin de l'Institution des Sourds-Muets. Et donc, comme on a placé Victor dans l'Institution des Sourds-Muets, il le voit, et lui prend une position tout à fait inverse. Il dit pas du tout, c'est pas du tout un idiot, c'est un enfant qui a dû, pour des raisons que nous ignorons, être soit abandonné, soit qui s'est échappé de chez lui, mais qui a été privé, c'est le terme qu'il emploie, du commerce réciproque. C'est un joli mot pour dire qu'il a été privé des échanges premiers qu'un enfant a normalement avec ses parents et qui s'est développé de cette manière-là. C'est un enfant sauvage, et le terme va devenir célèbre. C'est un enfant sauvage, dit Itard, et pas du tout un idiot. Et par conséquent, si on essaye d'entrer en relation avec lui, on doit l'améliorer. Et Itard obtient, même malgré l'avis de Pinel, qui est quand même un personnage beaucoup plus important, il obtient des crédits pour tenter cette première expérience. Et donc, il va être aidé par une brave dame qui est un peu la première assistante maternelle de l'histoire, qu'on engage pour ça, qui va s'occuper de Victor toute la journée. Et lui, le voit tous les jours et met au point, et raconte de façon assez... C'est très bien montré dans le film de Truffaut, et c'est raconté de façon passionnante dans les mémoires qu'a écrit Itard. Il va se développer toute une éducation spécialisée, petit à petit, pour essayer de développer Victor. Bon, vous savez sans doute que l'expérience... On ne peut pas dire que c'est un échec complet, mais enfin, ne sera pas un très grand succès. C'est-à-dire que Victor, effectivement, va se socialiser, va faire un certain progrès dans les relations, mais malheureusement, n'acquerra jamais le langage, ce qui était le grand espoir d'Itard. Itard se consolera en disant que peut-être il était trop grand et que le larynx avait dû se durcir avec l'âge, faute d'utilisation, et que par conséquent, on ne pouvait pas espérer le faire parler. Itard, un peu découragé par cet échec, continuera, contrairement à ce qu'on a souvent écrit, à voir quelques autres enfants du même type, mais va surtout entreprendre une autre carrière. C'est un peu le fondateur de l'otorhinolaryngologie. Il a toute une autre carrière très importante auprès des sourds-muets, notamment, et où il va développer tout un travail sur l'ORL. Quant à Victor, atteignant sa majorité supposée, il quitte l'institution des sourds-muets, qui est faite pour les enfants à l'époque surtout, et le gouvernement, dans sa magnificence, donne une certaine subvention à son assistante maternelle qui va l'emmener, qui va s'installer avec lui et s'occuper de lui jusqu'à sa mort. Il est mort pas très vieux, hein, je crois qu'il avait 27-28 ans, supposé, puisqu'on ne connaissait pas sa date de naissance, sans acquérir le langage. Alors, une petite anecdote, madame... je ne sais plus comment elle s'appelait, j'ai trop de mémoire, enfin la dame qui s'occupait de lui, habitait impasse des Feuillantines. Alors, si vous vous rappelez bien ce que vous avez appris dans votre jeunesse au lycée, impasse des Feuillantines, exactement à la même époque, grandissait un autre Victor qui, lui, devait connaître une toute autre célébrité. Et on a pensé, à certains moments, que Victor, le sauvage de l'Aveyron, aurait pu suggérer à l'autre Victor le personnage de Quasimodo, mais tout ça n'est qu'une supputation. Alors, qu'est-ce qui se passe après ? Après, on va voir maintenant tout le temps osciller, en somme, les gens entre cette idée « c'est curable, on peut quelque chose pour ses enfants », ou « ils sont incurables, il n'y a pas besoin de trop se fatiguer à les occuper ». Celui qui succède à Itard, alors on voit aussi apparaître le conflit, mais Itard était médecin, même s'il a travaillé surtout dans une optique éducative, c'était avant tout un médecin qui pensait soigner en quelque sorte. Celui qui succède un peu à Itard dans son intérêt pour les idiots, c'est un instituteur. Vous voyez l'opposition. Et c'est un instituteur très anti-médical et qui dit les médecins n'ont pas du tout à s'en occuper. Ils ont tout à fait autre chose à faire. Qu'est-ce que c'est que cette intrusion dans un domaine qui est strictement un domaine éducatif et qui ressort de la pédagogie? Il s'appelle Édouard Séguin. C'est un personnage assez étrange aussi, assez curieux. Bon, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Alors qu'Itard était un personnage plutôt modeste qui cherchait, Séguin, c'est quelqu'un qui sait. Il sait, il a une très grande idée de sa méthode, mais il commence à s'occuper non pas d'un seul idiot, comme l'avait fait Itard, mais de groupes. Et il va créer d'abord une petite école à Pigalle, spécialisée dans l'éducation de ses enfants, qu'il appelle aussi des enfants idiots. Et puis ensuite, il va rentrer comme instituteur à l'hôpital de Bicêtre. Là, l'affaire finit assez mal. À Bicêtre, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Enfin, au bout d'un an ou deux, il a une grosse dispute avec le médecin-chef. Il est très anti-médical, comme je le disais. Il y a une grosse dispute avec le médecin-chef. Il est licencié de façon assez orageuse. Il se trouve qu'on est au moment du coup d'État de Napoléon III, enfin de Louis-Napoléon Bonaparte, et que Séguin est plutôt républicain. Est-ce que c'est pour des raisons politiques? Est-ce que c'est pour d'autres raisons? Ça, on ne sait pas très bien. Il part aux États-Unis. Aux États-Unis, il fait sa médecine quand même pour avoir la paix avec les gens qui lui disent qu'il faut être médecin pour s'occuper de ce genre de... Bon, à l'époque, on faisait sa médecine en 3-4 ans aux États-Unis. C'était assez facile, assez rapide. Donc, il fait sa médecine et il deviendra aux États-Unis un des maîtres de l'éducation des enfants mentalement déficients, comme on les appelait, et à l'origine de la création d'un grand nombre d'écoles spécialisées, assez remarquables d'ailleurs, où on va essayer d'appliquer la méthode de Séguin. Alors la méthode de Séguin, je n'ai pas le temps non plus de vous la détailler, mais c'est une méthode pédagogique qui a beaucoup inspiré l'éducation spécialisée et beaucoup de gens, et également à travers Maria Montessori, qui avait beaucoup lu Séguin, ça a beaucoup inspiré aussi la pédagogie de l'école maternelle, par exemple, tous les jeux éducatifs, toutes ces choses-là, ça vient beaucoup de Séguin. Il fait un travail sans doute très, très remarquable, et il fait en même temps un travail clinique assez extraordinaire, et il décrit ce qu'il appelle l'idiotie, avec une très grande finesse, et on retrouve dans ses descriptions des passages qui pourraient presque être signés Kanner. On trouve absolument les troubles de la communication, les troubles de la socialisation, un rapport très particulier au langage, les stéréotypies, les intérêts restreints, enfin tout ce que nous avons appris depuis à reconnaître comme des signes classiques d'autisme, Séguin les a déjà décrits avec beaucoup, beaucoup de finesse. Après son départ en Amérique, la situation en France devient très sombre pour ce qu'on continue à appeler les idiots. Et ils sont en quelque sorte enfermés au fond des asiles, dans des lieux de réjection et d'abandon, et dans des conditions assez, assez épouvantables, jusqu'au jour où arrive à l'hôpital de Bicêtre un personnage également, il faut être peut-être un peu particulier pour être pionnier ou créateur dans ce domaine, un personnage aussi assez étrange qui a un nom absolument étonnant, enfin il a un prénom étonnant, il s'appelle Désiré Magloire, il faut le faire. Et ce Désiré Magloire, Bourneville, de son nom de famille, se trouve à la tête d'un service à Bicêtre où il y a un certain nombre d'idiots qui croupissent comme ça dans des conditions qu'il décrit très très bien et qui sont révoltantes pour, pas seulement pour le lecteur d'aujourd'hui, mais déjà pour le lecteur de cette époque. Et Bourneville ressuscite les livres d'Itard, les livres de Séguin, retrouve tout ça et essaye de développer à Bicêtre un traitement qu'il appelle médico-pédagogique, c'est lui qui a inventé le mot, un traitement médico-pédagogique qui essaye de faire la synthèse difficile entre ce qui est médical et ce qui est pédagogique, qui introduit des instituteurs à l'intérieur de l'hôpital, mais qui reste quand même beaucoup sous direction médicale à l'hôpital de Bicêtre. Et alors, il se trouve que Bourneville, par ailleurs, a toute une activité politique qui fait qu'il devient député, membre du conseil d'administration de l'assistance publique de Paris. Enfin, il tient des postes de pouvoir et ça lui permet d'entrer en contact avec des tas de gens et d'obtenir beaucoup de crédits et beaucoup de moyens. De ce fait, il est très jalousé, évidemment, par les autres, par ses collègues en particulier. L'expérience de Bourneville représente un peu comme une espèce de parenthèse dans l'histoire de ces idiots, ce qu'on continue encore à appeler des idiots, une parenthèse heureuse où on va faire un travail réel avec eux et où semble-t-il, en tout cas c'est ce qu'il met dans ses publications, il obtient un certain nombre de résultats. Lorsque surgit un autre personnage qui va s'opposer alors frontalement à lui et dont vous avez probablement pour la plupart entendu parler et qui s'appelle Alfred Binet. Alfred Binet est l'auteur, avec Simon, des tests de Binet et Simon, à l'origine de ce qu'on a appelé l'échelle métrique de l'intelligence. Binet et Simon étaient les premiers à essayer de mesurer l'intelligence. Bon, je ne rentrerai pas non plus trop dans les détails, il y a beaucoup de choses à dire sur cette mesure de l'intelligence qui donnera par la suite le fameux quotient intellectuel. Ce n'est pas eux qui ont inventé le quotient intellectuel, ce sont des Américains, mais qui ont repris les travaux de Binet et Simon. Mais Binet, surtout, a une idée très nette et très claire, lui, c'est que les idiots sont, comme il dit, inéducables. Et que c'est dépenser inutilement de l'argent que de faire tout ce que Bourneville essaye de faire, et donc à partir de son échelle métrique de la. Et puis d'autre part, qu'il est tout à fait scandaleux que des médecins, vous voyez, on retrouve toujours le même conflit, s'occupent de quelque chose qui doit appartenir strictement à l'éducation. On retrouve toujours les mêmes conflits, et donc Binet va proposer avec son échelle métrique de l'intelligence une espèce de couteaux, enfin de lignes de séparation extrêmement nettes entre ceux qui sont éducables. Et pour cela, il propose de créer des classes de perfectionnement, ce qui sont appelées ensuite les CLIS, des classes de perfectionnement à l'intérieur des écoles, et que ce soit la charge des enseignants et d'enseignants spécialisés éventuellement, mais tout à fait quelque chose entre les mains des enseignants. Et d'autre part, en dessous de cette ligne, les inéducables qui veulent bien abandonner au psychiatre, mais simplement en leur laissant le moins de moyens possible parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Alors, on en est à peu près là, autour des années 1910, lorsque l'histoire va se poursuivre en France pendant une vingtaine ou une trentaine d'années, il ne va plus se faire grand-chose. On pourrait dire jusqu'à la guerre. À partir de Bourneville, en gros, bon, on trouverait des exceptions, mais en gros, de Bourneville jusqu'à notre après-guerre, c'est-à-dire pendant les 50 premières années du siècle, il ne va plus se passer énormément de choses pour cette population-là. Une neuropsychiatrie infantile va commencer à naître, mais qui va s'occuper tout à fait d'autres types d'enfants, des enfants dont nous disons aujourd'hui qu'ils ont des troubles de la conduite, des troubles du comportement, des troubles du caractère, mais pas pour ces enfants qui vont effectivement croupir, au fond, le plus souvent, soit rester dans leur famille, soit croupir au fond de l'hôpital psychiatrique. Par contre, aux États-Unis, il va se passer un certain nombre de choses assez importantes. Alors, la première chose qui se passe, d'abord, il y a eu, dans la suite de Séguin, tout ce développement, dont je vous ai dit deux mots, d'écoles spécialisées pour les arriérés mentaux, avec des réalisations quelquefois assez remarquables. Mais ces réalisations, assez rapidement, vont être victimes de leur succès. C'est-à-dire que ces écoles spécialisées, qui se sont créées en assez grand nombre, vont être en quelque sorte envahies par toute une population d'enfants, et il n'y aura pas les moyens nécessaires pour répondre à cet encombrement, à ce grand nombre d'enfants, et progressivement, ces écoles vont dégénérer. Elles vont d'autant plus dégénérer qu'apparaît à ce moment-là que va se développer aux États-Unis tout un courant qui avait commencé en France autour de ce qu'on appelait la théorie de la dégénérescence. La théorie de la dégénérescence, c'est une théorie qui a été la grande théorie psychiatrique de la deuxième moitié du 19e siècle. Elle peut se résumer en termes très simples, c'est que tous ceux que nous appelons les malades mentaux ou les déviants sur le plan mental sont en fait, d'après cette théorie, appartiennent à un rameau déviant de l'humanité où la déviation s'accroît de génération en génération. Ça commence par deux déséquilibrés qui se rencontrent et qui font un enfant. L'enfant est un peu plus malade que ses parents, il est un peu mélancolique, si vous voulez. Il rencontre une autre mélancolique et à eux deux, ils font encore plus dégénérer, mettons schizophrène, qui rencontre une schizophrène, et ils vont faire encore, d'après la théorie, encore plus dégénérer, et ça s'accroît comme ça de génération en génération jusqu'au terme ultime qui est justement notre idiot. L'idiot étant le terme ultime. Alors, selon la théorie de la dégénérescence, version française, l'affaire s'arrête là. Parce que les théoriciens de la théorie de la dégénérescence pensaient que les idiots étaient stériles. L'affaire s'arrête là, et donc ce rameau, heureusement, ne s'étend pas davantage. Reprise aux États-Unis, la théorie va être modifiée et on va penser que non seulement ça ne s'arrête pas là, mais qu'en plus ces sujets dégénérés sont beaucoup plus féconds que les autres. Et comme ils sont plus féconds que les autres, évidemment la race tout entière risque un jour d'être submergée par cette dégénérescence et il faut donc se protéger. Et pour se protéger, on invente des pratiques qu'on appelle l'eugénisme, c'est-à-dire qu'on essaye de progressivement, soit de les isoler simplement pour qu'ils ne puissent pas se reproduire, soit éventuellement de les castrer ou de les stériliser. Et si vous avez lu le superbe livre de William Faulkner qui s'appelle « Le bruit et la fureur » et dont le héros principal, Benji, est en fait décrit très exactement 15 ans avant Kanner, comme un autiste. La description est absolument étonnante. Benji finit, comme il a eu le malheur un jour de s'échapper de chez lui et de bousculer un tout petit peu une petite fille, finira castré à la demande de sa famille. Donc, cette théorie eugénique va devenir très prépondérante. On peut dire qu'il y a eu, entre les années 1910 et 1930 à peu près, une véritable folie eugénique aux États-Unis, avec une espèce de peur que la race ne soit contaminée par ces idiots. Alors, j'insiste là-dessus parce que je crois qu'on peut comprendre vraiment le sens de la découverte de Kanner dans ce contexte-là. Lorsque Kanner, en 1943, mais il avait déjà commencé avant, sa publication date de 1943, il avait commencé, Kanner était donc un professeur de psychiatrie à Baltimore, d'origine allemande, mais qui avait fait l'essentiel de sa carrière aux États-Unis. Et Kanner va essayer d'isoler, dans toute la masse de ceux qu'on appelle à l'époque les arriérés mentaux, les déficients mentaux, les retardés mentaux, on dit exactement aux États-Unis à cette époque, il va essayer d'isoler un groupe particulier d'enfants dont il pense qu'ils ne sont pas du tout retardés mentaux. On sait aujourd'hui que c'est un peu une erreur et qu'un grand nombre d'autistes ont de surcroît ou associé au trouble de l'autisme un retard mental. Mais à l'époque, Kanner pense qu'ils sont normalement intelligents et que ces retardés mentaux constituent un groupe particulier, une véritable maladie particulière, dit-il, caractérisée par les signes classiques de l'autisme de Kanner, le fait que ce sont des enfants qui sont extrêmement isolés, qui n'ont pas de contact, ou peu de contact avec le monde extérieur, qui ont un souci de ce que Kanner appelle l'immuabilité, sameness en anglais, que rien ne change dans leur environnement, que tout reste très identique, et qui développent un rapport très particulier au langage lorsqu'ils ont un langage. Ça reste d'ailleurs les signes cardinaux, les signes fondamentaux de l'autisme de Kanner, qu'on appelle aujourd'hui autisme de Kanner, et il reprend en tout cas le terme d'autisme qui avait déjà été créé par Bleuler, par un Suisse, pour décrire un symptôme particulier de la schizophrénie, mais il l'appelle autisme infantile précoce, dont il dit que c'est un trouble inné du contact affectif. Alors cette description aux États-Unis a très rapidement un énorme succès. Elle sera complétée à peu près un tout petit peu après par quelqu'un qui a travaillé beaucoup avec Kanner, mais qui était une une psychanalyste d'origine hongroise qui avait été formée en Allemagne et en Autriche et qui est venue aux États-Unis pour les fêtes des persécutions tout de suite au début de la guerre et qui s'appelle Margaret Mahler. Margaret Mahler va reprendre la description de Kanner qu'elle observe chez les de très jeunes enfants dont elle s'occupe, mais elle montre aussi qu'il y a d'autres enfants qui ne sont pas tout à fait du même type, alors que l'enfant autiste a en quelque sorte tendance à se replier, à ignorer complètement l'autre. Ces autres enfants dont elle parle, elle dit, ils se mettent en relation avec les autres, mais c'est une relation très particulière. Ils sont en quelque sorte collés aux autres, ils ne s'en différencient pas. Et elle va appeler ça psychose symbiotique. Alors elle s'est beaucoup expliquée sur ce terme de psychose qui aujourd'hui est très attaqué par certains mouvements. Au début du siècle, un psychiatre suisse auquel j'ai fait allusion, Bleuler, avait décrit la schizophrénie. Et à la suite de ça, aux États-Unis, on s'était mis à remarquer qu'il y avait peut-être des schizophrènes très précoces qu'on appelait schizophrénie infantile. Mais ce terme de schizophrénie infantile ne plaît pas beaucoup à Margaret Mahler parce qu'elle dit qu'on ne peut pas employer un terme schizophrénie qui s'adresse à des adultes développés et qui décrit un processus de dissociation caractéristique chez les adultes développés pour désigner des enfants qui ne sont pas encore formés, qui sont des êtres en développement. Il faut trouver un autre mot pour décrire cette absence d'intégration de l'enfant très perturbé qui est très différente de la dissociation de l'adulte déjà fait, en quelque sorte. C'est pour ça qu'elle propose d'appeler ça psychose infantile et que, de façon à bien spécifier que c'est un trouble de l'enfant et que dans ces psychoses infantiles, il y a deux sortes, en quelque sorte, les psychoses autistiques, qui est l'autisme de Kanner, et puis ces psychoses un peu différentes, où l'enfant a cette espèce de relation de collage avec autrui, qu'elle appelle psychose symbiotique. C'est de là que vient donc ce terme de psychose infantile qui a eu depuis un certain succès, mais qui a aussi été très, très violemment, et qui est encore actuellement très, très violemment discuté. Alors, on se pose à ce moment-là la question d'où ça vient. Pourquoi ces enfants ? Toujours la même vieille question, l'inné, l'acquis, d'où ça vient ? Et c'est là que le courant, qu'au sens très large, tout à l'heure, Emmanuel Bouvard disait qu'il ne savait pas si j'étais un psychanalyste au sens étroit, au sens large. Ça me faisait penser, il y a un rameau de protestants qui s'appelle les darbistes. Chez les darbistes, il y a les frères larges et les frères étroits. Donc, moi, je serais plutôt du côté des frères larges. Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est uniquement la psychanalyse. Disons, au sens plus large, la psychodynamique, une espèce de façon de considérer, de se poser des questions sur le sens des symptômes et sur l'inscription d'un symptôme donné dans l'histoire d'un individu. Et dans ce mouvement psychodynamique, il y a une véritable dérive qui va se développer. Et cette dérive, qui s'explique d'ailleurs dans un souci de soigner ces enfants, de les arracher encore une fois à cet eugénisme qui était à l'époque dominant, cette dérive va s'orienter de façon extrêmement univoque vers ce qu'on appelait un psychogénétisme, c'est-à-dire vers l'idée que c'est l'état psychologique des parents qui crée, et en particulier de la mère, qui crée en quelque sorte l'autisme de l'enfant. Il y a un certain nombre de personnes qui vont beaucoup aller dans ce sens et dans cette orientation. Ce n'est pas le cas de tous les gens d'inspiration psychanalytique, loin de là, et en particulier Margaret Mahler, dont je parlais il y a un instant, a toujours soutenu que l'autisme ou les psychoses symbiotiques ne venaient pas du tout de l'état psychologique des parents, que très vraisemblablement, il y avait une espèce de disposition, de tempérament, de constitution biologique inconnue, naturelle, quelque chose dans la manière dont l'enfant était structuré, qui faisait qu'il ne pouvait pas utiliser normalement l'apport des soins maternels. Et que quand on examinait les familles, on s'apercevait facilement qu'il y en avait un petit peu de tous les genres. Il y en avait qui étaient peut-être très perturbés, et souvent on pouvait se poser la question si leur perturbation n'était pas une réaction à la pathologie de l'enfant. Il y en a qui étaient tout à fait normales et que par conséquent on ne pouvait pas mettre sur le dos en quelque sorte des parents une sorte de culpabilité, de responsabilité. Ça n'a pas été le cas, encore une fois, bien sûr, de tous les analystes. Et lorsque toutes ces idées sont venues en France, France, essentiellement dans l'après-guerre, elles ont été reçues d'une part par un certain nombre de pédopsychiatres, dont beaucoup étaient de formation psychanalytique, mais qui ont toujours maintenu la place des facteurs de vulnérabilité, de fragilité biologique et probablement dans un grand nombre de cas génétiques, et puis reçues par d'autres qui, dans une perspective qui se développait à l'époque et qui était un peu l'antipsychiatrie, ont au contraire effectivement développé de façon tout à fait, j'allais dire inadmissible, parce que c'est un peu le sentiment que j'ai, des théories fumeuses sur le fait que l'enfant était inclus dans la jouissance de sa mère, ou sur le fait que la mère avait des désirs mortifères vis-à-vis de l'enfant. Alors, ces théories, malheureusement, ont été très en vogue, mais très médiatisées, ont donné lieu à un certain nombre de livres qui ont connu des tirages à une certaine époque assez considérables. Et du coup, ces théories se sont répandues de façon un peu exagérée dans un certain nombre d'institutions psychiatriques, d'où l'idée qui maintenant prévaut quand même que l'approche, entre guillemets, psychanalytique, moi j'aimerais mieux dire relationnelle, de ces enfants inclut nécessairement une culpabilisation de la mère. Alors, tout ça, évidemment, préparait le combat. Le combat, et, évidemment, les parents, qui devenaient quand même de plus en plus audibles. Il faut bien dire, comme je rappelais tout à l'heure, pendant très longtemps, les parents n'ont pas été très écoutés, on n'avait pas de gros moyens d'expression. Nous vivons maintenant dans une société différente, qui est une société d'abord où l'information est beaucoup plus générale. Les parents sont beaucoup plus informés qu'ils n'étaient autrefois, ne serait-ce que grâce à Internet. D'autre part, nous vivons aussi dans ce qu'on appelle maintenant une démocratie d'opinion, où le rôle des usagers devient de plus en plus important dans toutes sortes de domaines, et où le poids des usagers se fait beaucoup plus entendre, enfin, où la parole des usagers se fait beaucoup plus entendre. Et de ce fait, la révolte des parents qui a commencé aux États-Unis à la fin des années 60, qui est venue en France, comme je le disais tout à l'heure, au milieu des années 80, est devenue de plus en plus audible et, malheureusement, a abouti aussi à l'inverse, de même qu'il y avait eu des positions outrancières extrêmement dogmatiques d'un côté, à des positions tout aussi outrancières et tout aussi dogmatiques de l'autre côté, c'est-à-dire un peu à l'idée que la biologie a la portée remède à tous les maux et que, après les méchants psychanalystes, les gentils éducateurs, essentiellement basés sur des théories comportementalistes qui ont d'ailleurs leur intérêt, prendraient la relève et que tout irait mieux dans le meilleur des mondes. Et cette position renouvelle aujourd'hui la vieille guerre des psys et des éducateurs qui, encore une fois, a des racines dans l'histoire. Ça devait à un certain moment se raconter. Il fallait qu'on ait un petit moment avec cet enfant pour dire, raconte-nous un peu ce qui s'est passé et pour remettre en route ces processus narratifs qui sont, et je crois que c'est ça pour moi le soin, enfin essentiellement.
Bien, j'ai des appels pressants de devoir donc conclure. Je crois qu'on doit remercier Jacques Hochmann d'être présent parmi nous, de son intervention. Je ne peux que vous inviter à lire cet ouvrage, bien évidemment, mais ces ouvrages, ces interventions, parce que, encore une fois, la qualité, la diversité de ces contributions me paraît importante. De te remercier d'avoir passé ce moment avec nous, en espérant t'y revoir. Alors, pas forcément, on n'attendra pas forcément le prochain livre, mais en tout cas, d'espérer de t'y revoir prochainement. Et donc, merci beaucoup à toi.
Merci à vous.